marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. L'impératrice Wu Zetian, une bénédiction pour la fiction.
Je suis arrivée au palais à l'âge de 14 ans et j'ai surmonté bien des obstacles. Le moindre faux pas aurait pu me coûter la vie. Tous me préféreraient morte que de me voir accéder au trône. Il faut vivre. Il faut vivre afin d'éliminer ses ennemis.
C'est l'histoire d'une femme qui, d'une ambition constante, régna des décennies sur la Chine des Tang au 7e siècle. D'abord impératrice, elle se tenait aux côtés de son époux, que la maladie rendit de plus en plus déficient, gouvernant derrière l'écran. Puis, elle fut la seule femme de l'histoire de Chine à pouvoir être nommée empereur. J'ai bien dit empereur. Elle voulut même fonder sa propre dynastie. Les annales des Tang sont moins loquaces sur elle que sur les souverains hommes. Les élites bureaucratiques, il est vrai, avaient détesté qu'elle chamboule les règles. Elles ont donc ensuite hésité entre le silence sur son long règne ou l'entretien à son sujet d'une légende noire. Pour éliminer ses victimes, n'aurait-elle pas recouru à d'étranges sortilèges et à des châtiments inouïs qui impressionnent encore? Et que pouvait-elle bien faire à 75 ans révolus, en compagnie de jeunes amants, au visage pâle et aux lèvres rouges? Là encore, l'imagination fonctionne. Personnage négatif dans l'opéra traditionnel, Wu Zetian a inspiré nombre de romans fantastiques, érotiques, et des films et des séries télé, depuis 1939. Pour montrer sur les écrans le roman national, les réalisateurs chinois ont bien de la chance d'avoir à leur disposition des personnages historiques très nombreux et fabuleux comme celui-ci. La dynastie Tang, qui développe le commerce sur la route de la soie et l'impression sur bois, c'est tout de même autre chose que nos rois mérovingiens. Et Wu Zetian, c'est d'un autre calibre que Frédégonde ou Brunehaut. Il demeure que le premier producteur en Chine, c'est le parti, et il a la puissance de plier à son gré les nuques les plus souveraines. La star Fan Bingbing, qu'on était tenté de comparer à l'impératrice du 7e siècle qu'elle a interprétée, et qui ne se déplaçait qu'entourée de 30 personnes, dont l'une chargée de lui faire la conversation, vient d'en faire l'expérience. Elle a soudain disparu de la circulation cet été, avant de ne refaire surface qu'hier, en piteuse situation. La tombe de l'impératrice morte en 705 ne comporte aucune inscription. Les élites bureaucratiques gardent le contrôle du passé comme du présent.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Luis Apparentino, bonjour.
Bonjour.
Vous tenez un carrefour stratégique, enseignant l'histoire du cinéma chinois et le cinéma chinois d'histoire à l'INALCO, organisatrice de festivals, et puis tous les ans, c'est au mois de novembre, c'est donc bientôt, à La Rochelle, d'une semaine du cinéma chinois. Et dans un livre que vous avez publié il y a un moment déjà, Le regard des ombres, vous insistez sur la présence de l'omniprésence de la femme dans le cinéma chinois, à toutes les générations du cinéma chinois.
Absolument, parce que la femme, à tout moment, en effet, de l'histoire chinoise, et donc de l'histoire du cinéma chinois en particulier, a été une figure emblématique. Elle a toujours représenté le portrait de la Chine à des moments cruciaux de son histoire.
Mais la femme humiliée, la femme victime.
La femme, exactement. La femme humiliée, d'abord. La femme victime, donc surtout, par exemple, dans le cinéma des années 30. La femme qui essaye quand même de refaire surface et au contraire d'être elle-même portatrice des idéaux révolutionnaires, donc des années 40, dans le cinéma des années 40 et 50. Et puis, une femme plus libre, celle qui revendique son indépendance dans le cinéma à partir des années 80, quand la Chine tourne la page du maoïsme.
Nous allons nous transporter dans la dynastie des Tang, qui est une époque assez heureuse pour la Chine, qui tente une réunification qui va durer longuement, surtout depuis le Nord, et qui connaît une prospérité par le commerce.
Oui, elle connaît une prospérité par le commerce. Et puis, justement, puisqu'on parlait de la femme, c'est une époque où, finalement, la femme a une certaine importance. On ne voit pas mal, au contraire, le fait qu'elle puisse s'intéresser à, aux arts, par exemple. Et d'ailleurs, l'héroïne dont nous parlons aujourd'hui, Wuzetian, fut fortement encouragée par son père à s'intéresser à la littérature, à la peinture, voire même à la carrière politique. Une chose qui était absolument impossible pour l'époque.
Elle est d'assez modeste extraction. Elle ne s'appelle pas encore Wuzetian. Elle est choisie comme concubine, mais plutôt de cinquième catégorie, par un empereur. Quand cet empereur décède, elle se retrouve nonne. Mais peut-être a-t-elle noué avec le futur empereur des relations déjà dans la première période, avant qu'elle ne soit renvoyée dans les ténèbres extérieures. En tout cas, elle ressurgit.
Absolument. Elle ressurgit. Alors là aussi, il y a la légende qui dit que l'empereur Gaozong, un pèlerinage dans un couvent, la découvre, reste complètement frappé par sa beauté.
Et parce qu'on lui avait rasé la tête, on l'avait mise dans un couvent bouddhiste.
Et pourtant, elle était toujours belle. Et, ou alors, vraisemblablement, elle se trouve déjà à son insu, à l'époque, au centre d'une intrigue, puisque la première épouse était, la première épouse de Gaozong était jalouse de la deuxième épouse, la concubine Xiao. Et alors, quand elle voit l'intérêt de l'empereur vis-à-vis de cette nonne, elle se dit que finalement, si elle la fait revenir à la cour, elle pourra se débarrasser de Xiao. Et malheureusement, ses plans ne vont pas du tout se dérouler de cette sorte.
Et c'est notre héroïne qui va devenir de fait la première épouse et va se voir offrir un titre prestigieux. C'est déjà une histoire pour le cinéma que vous racontez. En 1939, à Hong Kong, un film est tourné. C'est le premier qui concerne l'impératrice. On va bientôt pouvoir la nommer ainsi.
Votre Majesté a l'air soucieuse. Est-ce par ma faute?
Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Tu n'imagines pas ce que c'est. Parcourir les registres impériaux et ce genre de choses chaque matin est tellement ennuyeux.
Pour soulager votre majesté, votre servante souhaiterait prendre sa place.
Eh bien, tu seras désormais impératrice.
C'est vrai? Impératrice? Impératrice? Tout ce qu'il y a sous ce ciel m'appartient désormais.
Vous savez qu'on a beaucoup peiné à étudier tous ces dossiers impériaux, mais heureusement nous avions Olivio Segura. Il est bon d'avoir des stagiaires qui ont pratiqué le mandarin et comme vous,
Lusa
Parentino, vécu longtemps en Chine. C'est un film de 1939, la seconde génération du cinéma chinois.
Oui, nous sommes donc à Hong Kong. Chung Hong-hu tourne le film, ce film où Wuzetian a en effet le rôle de protagoniste. Et alors là, il lui donne, on va dire, lui prête une fausse naïveté. On l'a entendu. Elle dit, moi, l'impératrice, alors qu'elle a tellement fait et brigué pour en arriver là. Mais le réalisateur joue volontairement un peu l'ambiguïté, celle qui pèse finalement sur cette souveraine, parce que il y en a qui la décrivent comme quelqu'un, un personnage horrible qui a vraiment tout fait pour arriver à ses fins. Mais c'est aussi une impératrice qui a baissé les impôts, etc. Enfin, je veux dire, a aussi des côtés positifs.
Mais c'est à partir de ce moment-là, quand elle devient impératrice, c'est-à-dire quand même femme de l'empereur, c'est un titre très souvent utilisé dans l'histoire chinoise, qu'elle prend son nom, Wuzetian, conforme à la volonté du ciel.
Oui, voilà, c'est ça, sous les ordres du ciel. Zetian, c'est sous les ordres du ciel.
Mais les élites bureaucratiques l'aimeront modérément, parce qu'elle bouscule les règles, et il lui sera prêté des dons exceptionnellement noir pour l'intrigue.
Oui. La légende dit qu'elle est arrivée même jusqu'à tuer sa fille, la première fille qu'elle avait eue de l'empereur, parce que, non seulement parce que c'était une fille, donc elle n'avait pas le droit à succéder, et s'il devait y avoir une femme, c'était elle, et certainement pas, et personne d'autre, hein, même pas sa fille. Et elle a fait en sorte d'accuser la première épouse de l'empereur du meurtre de son enfant.
Et elle utilisait plus couramment toutes sortes de potions.
Et d'ailleurs, c'est justement l'impératrice Wang, la pauvre, qui a dû, on va dire, expérimenter cela, puisqu'elle a été tuée et jetée dans une cuve de vinaigre. Une fois que les jambes et les bras avaient été coupés. Pourquoi le vinaigre? Parce que d'une part, donc, il pouvait soulager les plaies, mais alors dans ce sens-là, vous voyez bien que soulager les plaies, ça voulait dire retarder la mort.
Prolonger le châtiment.
Voilà, prolonger le châtiment.
Nous sommes peu de choses, mais enfin, elle peut elle-même être victime d'intrigues dévouées aux bouddhistes, qu'elle préfère aux confucianistes. Elle construit beaucoup de bouddhas près d'une capitale qu'elle installe. Il peut arriver que les bouddhas se renversent. Alors nous sommes dans une autre production cinématographique, beaucoup plus récente, mais venue toujours de Hong Kong, 2018, détective Di, ça c'est un vrai personnage
le
historique.
Le juge Di, c'est un vrai, voilà, c'était un vrai magistrat, Di Renjie, qui n'était pas vraiment, qui était fâché, on va dire, avec le pouvoir, qui avait ses propres méthodes, mais c'est un personnage historique qui a d'ailleurs nourri la littérature pendant très longtemps et ravi beaucoup de lecteurs.
Alors, il n'aime pas nécessairement l'impératrice. Mais quand même, quand les comploteurs veulent la tuer d'une manière un peu originale...
Votre Majesté, le Bouddha céleste menace de s'écrouler sur le palais. Il faut vous mettre à l'abri.
Juge Di, je veux que chacun le sache. Sans votre intervention, ma vie s'arrêtait le jour même de mon sacre.
Oui, mais l'ayant sauvé, Di peut lui parler en toute liberté.
Veuillez pardonner mon audace. Sous le couvert de superstition, vous avez fait tuer des sujets de l'empereur. C'est impardonnable. Mais aujourd'hui, notre société est au bord du gouffre. Votre châtiment est suspendu. Un monarque doit être ferme, juste et fin stratège, mais doit aussi savoir distinguer le bien du mal. Que l'impératrice fasse preuve de sagesse, pour que les générations futures de la dynastie Tang connaissent paix et prospérité.
Impératrice, vous dites ?
10 000 ans de vie à mon impératrice, 10 000 fois 10 000 ans.
Ouais, mais là, la traduction est un peu insuffisante, parce que impératrice, c'est au sens empereur, là.
Absolument, parce que jusque-là, l'impératrice, c'était la femme de l'empereur. Alors que quand Wu Zetian, en 690, va finalement devenir elle-même vraiment l'impératrice, hein, du coup, on va s'adresser à elle comme empereur.
Et moi, je m'adresse à vous comme spécialiste du cinéma chinois. Là, c'est un film de Hong Kong, visible en 2D, 3D, 4DX.
Oui, c'est un film. D'ailleurs, c'est un très beau film de Tsui Hark, qui a mené très très bien son goût pour les fresques historiques, avec son goût prononcé pour les arts martiaux. Et donc, c'est un beau spectacle, en effet, c'est un beau spectacle à voir.
Et ça, c'est un film qui a une circulation extraordinaire.
Extraordinaire, il a eu une énorme diffusion, donc il a été diffusé à Hong Kong, il a très très bien marché en Chine populaire et il a été aussi l'un des blockbusters de 2011, même chez nous.
Et ça insiste sur les aspects noirs de l'impératrice, le côté la femme de 70 ans avec comme amant deux éphèbes qui sont par ailleurs frères.
Oui, alors bon, c'est toutes sortes de légendes, hein, encore une fois, ont vraiment caractérisé cette femme, ce personnage. Alors, par exemple, sur ce côté-là, sur lequel, en effet, vous avez raison, il y a eu tellement de romans érotiques qui ont été écrits.
Et même le roman pornographique qui a eu le plus de succès en Chine.
Tout à fait.
Dont on peut dire le nom.
Donc, le Qin Pi Mei. Mais en fait...
Vous ne le dites pas en français. Le prince Philippe, non? C'est quelque chose comme ça.
Non. C'est l'histoire de la Fio rôle et de la fleur. Mais en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a toujours, vous voyez, il y a toujours une histoire derrière tout ça. Alors, on parle de Wu Zetian comme l'impératrice qui ne voulait certainement pas le confucianisme, mais même pas le taoïsme, et qui était justement portée par le bouddhisme. Sauf, il y avait un seul côté du taoïsme qu'elle prenait en compte, et c'était le fait que pour préserver l'état de santé de son mari, les pratiques taoïstes lui permettaient de pouvoir avoir des amants, donc de pouvoir pratiquer, livrer à des pratiques sexuelles avec des amants. Et donc voilà pourquoi après, tout le monde s'est donné à pleine joie sur cette légende, sur cet aspect de Wu Zetian.
Avant le cinéma, elle est depuis longtemps une figure négative, enfin, idéal typique de l'opéra. Ici, c'est un opéra de Shenxi.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Luisa Parentino, spécialiste du cinéma chinois, l'impératrice Wu Zetian, une bénédiction pour la fiction. Quand la République s'installe, que la dernière impératrice de la dernière dynastie, mais enfin c'était une impératrice qui régnait comme régente ou comme douairière, pas comme empereur,
exact.
Au masculin, disparaît. Que la République donc est proclamée. De nouveau, un intérêt pour ce personnage ?
Oui, alors, pas tout de suite après. Disons que ça reste, pendant cette période-là, elle reste plutôt, elle est mise plutôt de côté. En revanche, elle va faire surface, cette fois-ci sous une lumière beaucoup plus positive, dans les années 50, puisque Mao Zedong lui-même va prêter à Wu Zetian des talents de gouvernante, des talents éclairés de gouvernante, et va même aller jusqu'à dire qu'elle avait une clairvoyance vraiment extraordinaire, surtout pour l'époque. Donc finalement, on a étant donné qu'en plus elle avait été reconnue un peu comme l'impératrice du peuple, elle avait fait baisser les impôts, elle avait réduit le budget militaire, etc. Donc, forcément, elle a maintenant, et ça leur fait une réputation avec le nouveau régime.
Et encore, Mao ne savait-il pas qu'une fois mort, la comparaison pourrait être faite entre la vieille impératrice et sa veuve, lui.
Ah oui, absolument. Il ne le savait pas encore. Et une grande comparaison va être faite de façon naturelle, je dirais, parce que quand Wu Zetian va arriver au pouvoir, elle va forcément régler ses comptes avec ceux qui ont tout fait pour qu'elle n'arrive pas où finalement elle arrive. Donc une histoire de vengeance incroyable. Ben c'est exactement la même histoire que Jiang Qing, qui à l'époque de la révolution culturelle va livrer ses comptes avec les réalisateurs, les acteurs du cinéma des années 30. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été elle-même actrice sous le nom de Lam Ping dans les années 30, mais les gens lui préféraient d'autres actrices à l'époque qui étaient probablement même plus douée qu'elle. Et à ce moment-là, elle va vraiment, vraiment régler ses comptes.
Mais si on prend un peu de hauteur et qu'on essaye de raisonner par catégorie, qu'est-ce qu'on sait vraiment des catégories sociales que l'impératrice du 7e siècle a favorisée. Il paraît qu'elle aurait nommé des hommes nouveaux à la place des anciens bureaucrates. Vous parlez des impôts, qu'elle aurait baissé les impôts de certains et aussi augmenté le nombre des foyers fiscaux, ce qui permettait d'ailleurs peut-être la première proposition, etc. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça ?
Elle était surtout du côté des paysans. Chose qui était assez neuve hein, pour tout ce qui était l'Empire. Et une autre chose qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a voulu la réforme du système des examens. Jusque-là, il y avait des classes bien spécifiques qui pouvaient accéder aux examens du mandarinat. Or, avec Woods Etienne, les choses vont changer. Elle va faire en sorte que tout le monde puisse accéder et que les femmes puissent y accéder aussi.
Vent et pluie sont cléments. Prospérité au royaume. Le jour se lève. 3h à 5h. Le soleil est levé, 7h à 9h. Construire le pays et installer la fabrique.
Moi, j'ai l'impression, Luisa Parentino, que vous aimez bien dans cette impératrice la personnage qui remet les pendules à l'heure en faveur des femmes. C'est d'ailleurs un peu le point de vue qui dominait dans une série télé en 30 épisodes, je crois.
Oui, oui.
2015.
Oui. 2015, oui. Une série télé qui finalement, vous voyez justement encore une fois Woods Etienne en tant que protagoniste et qui voyait le rôle de et qui voyait Fan Bingbing, donc l'actrice dont on parlait tout à l'heure, dans le rôle de Woods Etienne. Et c'est une série qui est née, peut-être c'était, s'il y avait des Chinois là, ils nous diraient que c'était déjà un mauvais feng shui, c'est-à-dire ça naissait sous un mauvais jour, étant donné que lancée sur la télévision du Hunan, qui était extrêmement à l'avant-garde hein, pour ce genre d'histoire, eh bien, le 21 décembre, déjà à la fin de l'année, la série est arrêtée à cause, paraît-il, de décolleté un peu trop prononcé.
Mais attendez, il y a 30 épisodes ou moins ?
Elle va être reprise au mois de janvier, mais avec des décolletés remontés.
Des châles, des voiles.
Oui, alors là, ça va être, il faut faire encore plus fort que ça, parce que ça va être presque, les filles seront filmées finalement, soit les visages, soit en dessous du décolleté. Comme ça, tout est résolu, on va dire.
On va dire un mot, on va y revenir, sur ce personnage de Fan Bingbing, star du cinéma chinois, qui est abonné peut-être au rôle d'impératrice, parce que dans le film de Monsieur Demeaux, Charles Demeaux, qui est sorti en France il y a peu, elle était une impératrice qui rencontrait un jésuite, un peu plus tard, beaucoup plus tard dans l'histoire, au XVIIIe siècle. Melville Poupeau, qui a eu le privilège de tourner avec elle tous les jours, elle lui disait « bonjour monsieur » et pas davantage.
On tournait dans un décor naturel, dans un jardin, et il se trouve que c'était dans une petite ville, on s'était un peu protégé, personne n'était au courant que Fan Bingbing, la grande star, était arrivée en ville, et finalement ça s'est su, et dès 4 heures du matin, il y a de plus en plus de fans chinois qui se sont agglomérés autour des grilles, qui ont commencé à s'exciter, à se chauffer, ce qui fait qu'à 6 heures du matin, avant même que le tournage commence, la police est intervenue, ça suffisait pas, les pompiers, puis finalement l'armée carrément pour exfiltrer Fan Bingbing de la petite cabane de jardinier où elle s'était réfugiée avec Charles Demeaux pour éviter de se faire assaillir par 3000 fans hystériques. C'est une méga star qui est actrice mais qui est aussi pop star. C'est vrai qu'elle a un peu une position d'impératrice. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'elle a un statut proche de celui d'une reine.
Sa Majesté la Reine.
Oui, donc 30 personnes qui l'accompagnent. Constamment, une personne pour lui tenir la conversation.
Oui.
Et tout complètement normé. Vous l'avez déjà rencontré ou un peu
un intérêt
limité de la rencontrer.
Non, je l'ai pas rencontré. C'est vrai que c'est très 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 difficile de rencontrer les grandes stars aujourd'hui en Chine. Et puis c'était dans mes intentions, mais alors là, je sais pas si ça va être possible. Vu
oui, parce que les impératrices passé. Peuvent connaître la disgrâce. Alors racontez cette histoire qui a beaucoup intrigué, qui fait suite à beaucoup de campagnes personnelles anti-corruption, entre guillemets, menées par le pouvoir communiste actuel. Au mois de juillet, elle disparaît des radars.
Elle disparaît, alors on se pose la question, et puis finalement on découvre que un producteur de séries télévisées, Monsieur Tsui, publie deux contrats d'un film de Fan Bingbing. Alors deux contrats, dans un contrat, apparemment, elle ne gagne que encore 10 millions de yuan, donc c'est à peu près 1,2 million hein, d'euros plus voitures de luxe, etc. Et dans un deuxième contrat, elle ne gagne 50 millions. Donc, ça veut dire 6 millions et quelques d'euros. Alors, le scandale est vite ouvert.
Parce que ça ouvre évidemment le fait de n'utiliser que le contrat le moins profitable des possibilités de fraude fiscale.
De fraude fiscale, justement. Donc, au moment où le producteur essaye de dire que de toute façon, Fan Bingbing n'était pour rien de l'affaire, forcément, c'était déjà trop tard. Et Fan Bingbing disparaît parce que on ne le sait que depuis hier, hein, parce que jusqu'à hier, on se disait, est-ce qu'elle est en prison, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Elle est assignée à résidence surveillée par les autorités, en attente de savoir que s'est-il passé, qu'est-ce qu'elle a, combien elle a gagné vraiment, etc. Et alors, elle, finalement, à son insu, elle est, bon, elle a fraudé le fisc, certes, mais à son insu, finalement, c'était pas elle, en effet, qui était visée, mais sont l'un des réalisateurs les plus connus aujourd'hui en Chine, Feng Xiaogang, qui est lui aussi maintenant bien, qui est surveillé de loin et de près même par les autorités, et qui aurait finalement dans son premier film Cell Phone, téléphone portable, aurait parlé des mésaventures d'un producteur télévisé qui trompe sa femme. Le producteur télévisé s'est reconnu, et puis voilà, la vengeance est là.
Dites-moi, ça mériterait un film si le cinéma n'était pas complètement contrôlé depuis Film City par le parti. C'est vrai que le parti, c'est le premier producteur de cinéma en Chine.
Ça reste encore comme ça. Bon, disons que il peut y avoir d'autres producteurs. Le problème, c'est pas tellement la production. Le problème, c'est que le parti contrôle la diffusion à 100%. Donc, aujourd'hui encore, un film pour être montré dans les salles chinoises doit passer la censure. Et malheureusement, nous sommes en train d'assister à une période où les vis se sont à nouveau resserrées et donc le contrôle est à nouveau très très fort. Et forcément, tout ce qui est et surtout les gens du cinéma, par en plus leurs gains faramineux, etc., sont surveillés de très près. D'ailleurs, la punition qui a été donnée à Fan Bingbing a été appelé de mariage entre l'éthique et l'argent.
Et puis c'est le contrôle du passé aussi qui est dans la main du pouvoir avec le cinéma d'histoire. Merci à Olivio Segura qui a préparé cette émission, à vous qui avez participé, Luisa Parentino, à Ludovic Asselot, à la technique, Audrey Ripouille, à la réalisation. Chez vous, Mathieu Carré, c'est ça, Mathieu
oui,
Bidard?
Oui, absolument, Jean de l'Histoire. Nous allons parler d'une émission XXL dans un instant. Boa, 13 mètres, requin, 18 mètres, les géants disparus. Ce sera notre thème.
Dans un instant, donc.